DW.
Monsieur Caninda, sur le site de Transparency International, il y a une vidéo qui explique comment l'indice est calculé. On mettra d'ailleurs un lien sur notre page à nous, mais est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de la méthode avec laquelle Transparency établit ce classement ?
Transparency International établit le classement de l'indice de perception de la corruption en se basant sur des enquêtes existantes de 13 différentes sources provenant de 12 institutions bien connues, réputées, comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Fondation Bertelsmann, mais il y a aussi les données qui nous viennent du Forum économique mondial, et il y a beaucoup d'autres sources, peut-être je ne pourrais pas toutes les citer. Et ces données sont agrégées et calculées sur la base de toutes ces données, on fait un calcul qui permet d'accorder une note qui s'échelle de 0 pour les États dont le secteur public est perçu comme le plus corrompu, à 100 pour les États dont le secteur public est perçu comme opérant avec un niveau d'intégrité beaucoup plus élevé.
Ce qu'il faut rappeler, vous venez de le dire, c'est qu'il s'agit là d'une perception. Donc, oui. C'est vraiment les hommes d'affaires, par exemple, les personnes qui ont affaire au rouage de l'État, leur ressenti de la façon dont ça se passe, dont se passent les transactions.
Tout à fait. Donc, c'est sur la base de les avis des experts qui partagent leur expérience. Et donc, c'est important de le préciser, oui. Donc, c'est de la perception de ces experts par rapport à la manière dont le secteur public des pays qui sont classés sont perçus en termes de corruption et gestion de celle-ci.
Et vous l'avez dit, ce sont 180 États qui sont ainsi classés chaque année. Et cette année encore, dans le rapport 2019, les États d'Afrique subsaharienne ne sont pas très très bien placés dans leur majorité. Et les États d'Afrique francophone n'ont pas des places non plus qui rendent jaloux les autres États. Parmi les derniers du classement, 168e sur 180, il y a la RDC. Alors, qu'est-ce qui a amené à cette position de la RDC si bas dans le tableau ?
En ce qui concerne la RDC, la question de l'impunité, il y a un sentiment, puisque avant l'IPC, il y a eu un sondage des citoyens sur leur expérience de la corruption. Donc ça, c'était dans le cadre du baromètre mondial de la corruption, où ce qui en ressortait aussi était que près de 80% des citoyens estimaient que la réponse du gouvernement de la RDC par rapport à la corruption n'était pas satisfaisante et que leurs institutions elles-mêmes étaient corrompues. Donc il y a cette question d'abord de confiance que les citoyens n'ont pas en leurs dirigeants en matière de lutte contre la corruption. Et donc il y a beaucoup d'efforts à fournir. Il y a la volonté politique qui s'exprime, mais elle n'est pas forcément suivie d'actions qui puissent convaincre les citoyens que la lutte contre l'impunité est prise au sérieux à tous les échelons de gouvernance au niveau du pays. Et cela se traduit aussi par le résultat que nous avons dans le cadre de l'IPC, parce que ce sont les différentes institutions qui interagissent avec la RDC qui ont ce sentiment et qui s'expriment dans les résultats que nous avons.
L'IPC, c'est cet indice de perception de la corruption. Oui. Pour le rapport qui vient d'être publié, les études ont été menées en 2019. Donc ça veut dire après l'alternance, depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir.
Oui, c'est bien cela. Et ça va même un peu avant cela. Donc il faut compter la période 2018-2019 selon les sources. Donc on ne peut pas forcément considérer les résultats de cette édition de l'indice de perception de la corruption comme un reflet de ce qui ressort de la première année du pouvoir du président actuel Félix Tshisekedi. Il faudrait peut-être voir avec l'édition suivante ou même l'édition subséquente pour que ce qui ressort de l'action ou des actions du gouvernement actuel puisse être reflété dans l'indice de perception de la corruption.
En revanche, il y a d'autres pays où il n'y a pas eu d'alternance qui sont aussi très mal placés, à peine mieux que la RDC, notamment le Congo-Brazzaville, 165e, le Burundi à la même place et le Tchad, 162e. Qu'est-ce qui explique que ces pays stagnent à des niveaux si bas?
Oui, ce qui explique cela, il y a un certain nombre de facteurs. Nous avons toujours souligné d'abord la volonté politique qui doit être appuyée et suivie ou se traduire par des actions concrètes qui vont au-delà des lois, parce que la majorité d'États en Afrique, à la suite de leur ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption, celle de l'UA et les différents protocoles au niveau sous-régional, ont adopté des lois, ont mis en place différentes institutions qui prennent différentes formes avec le mandat de lutter contre la corruption. Mais au-delà de ces aspects qui donnent plus l'apparence de vouloir se conformer à ce qui ressort de ces, on peut appeler ça les exigences de la communauté internationale, les actions ne suivent pas pour mettre d'abord ces institutions qu'on met en place dans les meilleures conditions pour qu'elles fassent leur travail en termes d'investigation, donc les enquêtes qu'il faut mener, mais aussi que la justice soit indépendante, parce que lorsque des cas de corruption sont portés à l'attention des autorités, il y a des enquêtes qui doivent être menées, il y a la justice qui doit faire son travail, et le cas échéant, des personnes ou des institutions doivent être tenues responsables, voire sanctionnées. Mais dans les pays que vous avez cités, il est observé que tous ces ingrédients dont nous avons parlé ne sont pas toujours au rendez-vous. Et un autre élément important qu'il faudrait souligner, c'est celui aussi de l'espace civique, parce que la corruption est plus, je dirais, prospère, si vous permettez le terme, là où la gestion de la chose publique se fait dans l'opacité, là où les citoyens n'ont pas accès à l'information par rapport à la gestion ou aux actes qui sont posés par les tenants du pouvoir public et voire leur administration. Et que ceux qui daignent dénoncer ou lancer des alertes par rapport à des cas de corruption, en font les frais, ils font l'objet de représailles. Donc c'est tous ces éléments, le rétrécissement de l'espace civique, les actions qui ne suivent pas les promesses en matière de lutte contre la corruption, qui font que la corruption est plus ou moins banalisée dans ces pays, et ça se traduit par les résultats que nous avons en termes de notes et de classement de ces pays.
Et à qui s'adresse finalement ce classement? À l'opinion publique, j'imagine, des pays concernés, mais peut-être aussi aux États, justement, pour les rappeler à leurs engagements ou alors à leurs partenaires pour les mettre en garde?
Absolument, puisque l'indice se concentre spécifiquement sur la perception de la corruption dans le secteur public. Donc il s'adresse principalement aux acteurs de ce secteur. Mais on va au-delà parce qu'il est observé que, je dirais même que c'est un fait que quand on parle par exemple de marché public, cela implique aussi le secteur privé, mais il appartient aux administrations, au gouvernement, au Parlement de mettre en place les mécanismes nécessaires pour pouvoir prévenir la corruption et aussi quand des cas de corruption sont rapportés, la justice suive son cours, que les enquêtes soient menées. Donc ça s'adresse à tous ces acteurs-là, mais principalement les tenants des institutions publiques, donc les gouvernements, les parlements et le système judiciaire de nos différents pays.
Transparency International publie ce classement depuis plusieurs années maintenant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des réponses?
Oui, et c'est selon les pays. Il y a des pays qui, à la suite de ce qui ressort dans l'indice de perception de la corruption, sont intéressés d'aller un peu plus loin pour identifier les causes. Parce que l'indice de perception de la corruption, c'est le point, le bout de l'iceberg. Mais il faudrait aller un peu plus dans les causes pour voir comment remédier à cette situation de corruption systémique et endémique. Donc il y a eu des pays où nous avons mené des évaluations. Récemment, nous l'avons fait au Bénin, où actuellement le gouvernement est en train de mettre en place ou en application un certain nombre de recommandations que nous avions émises dans le cadre de l'évaluation du système national d'intégrité, donc le système anticorruption du pays. Et cette évaluation a été menée dans plusieurs États. Il y a le Malawi, il y a le Rwanda, le Cameroun, et ça date des années. Donc nous allons au-delà de cela. Nous avons plusieurs outils qui permettent de parler des solutions qui peuvent être apportées à ces défis de corruption.
Monsieur Kaninda, un grand merci.
Je vous remercie aussi.